Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque mercredi, entre 16h et 16h30, vous avez rendez-vous avec l'université, l'émission Campus Il Info, qui vous informe donc sur la recherche, l'enseignement, tout ce qui s'organise, l'organisation de ce territoire des universités lilloises, qui n'en feront bientôt plus qu'une. Aujourd'hui, on va parler géographie et même géologie. Et notamment, le grand sujet du jour, qui est un sujet qu'on aborde différemment en politique, bien sûr, c'est celui de la séparation entre l'Angleterre, on va dire la Grande-Bretagne, et le continent, ce qu'on appelle le continent. Pour nous parler de ces questions, eh bien, j'ai invité M. Alain Transeau, qui est professeur des universités et qui est chercheur au laboratoire d'océanologie et de géosciences, l'UFR Sciences de la Terre de cette université, donc de l'île Sciences et Technologies. Bonjour Monsieur Transeau.
Bonjour Monsieur Lavergne.
Heureux de vous retrouver.
Mais oui, en effet, moi aussi.
Donc on a eu l'occasion déjà de présenter un autre thème ici. Là, on va aborder un titre, on va donner un titre un peu ronflant, le Brexit 1.0.
Oui, c'est effectivement un titre un peu ronflant. Ça participe à la communication, on va dire, sur nos travaux de recherche.
Alors c'est vrai que cette séparation politique, on va dire d'une certaine manière, entre la Grande-Bretagne et l'Europe, pour résumer, hein, est vécue d'une certaine manière actuellement. Avant, la Grande-Bretagne, enfin, je ne sais pas si on peut dire la Grande-Bretagne, l'Angleterre ou toute cette partie-là, eh bien, elle était complètement intégrée géographiquement ou géologiquement à l'Europe.
Oui, en effet, s'il y avait un continuum, hein, les grandes structures géologiques qui sont dans le nord de la France sont des structures qui relient la France et l'Angleterre. Et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de voir que il y a ce détroit du Pas-de-Calais qui traverse au milieu, mais pendant des millions d'années, les deux ensembles ont été connectés comme un seul et même ensemble continental. Donc c'est le même ensemble en effet. Oui.
Alors, qu'est-ce qui a joué? C'est, les températures, le climat, ou c'est pratiquement ce qu'on a pu appeler peut-être, est-ce que ça a un sens d'ailleurs, la tectonique des plaques?
Alors, ce n'est pas la tectonique des plaques. Il n'y a pas de. Certains ont pu proposer parfois qu'il y avait une espèce d'océanisation entre la France et l'Angleterre, un système de failles qui séparerait et éloignerait la partie de Grande-Bretagne de la partie européenne. Mais il n'y a pas de système de failles comme ça qui serait le long des côtes. Donc, c'est uniquement un processus géomorphologique d'érosion lente et puis de phénomènes plus ou moins catastrophiques qui ont fini par faire qu'il y a eu une connexion de la mer du Nord avec la Manche, plutôt qu'une vraie rupture et plutôt qu'une séparation avec un écartement réel. Il n'y a pas eu d'écartement, il y a eu simplement une connexion qui s'est faite entre le Nord, la mer du Nord, et le Sud, la Manche.
Alors vous parlez de catastrophe, on va y revenir, mais s'il y avait une faille, on serait dans des catastrophes plus récurrentes, on va dire.
Oui, alors cependant, il y a des failles. Il y a une faille qui est quasiment parallèle au tunnel sous la Manche, qui joue encore, hein, dans les années 1600, je ne sais plus bien combien. La ville de Calais a été partiellement rasée à cause de ce séisme. Donc il y a quand même de la tectonique, mais cette faille, elle est perpendiculaire elle relie Calais à Douvres, si on peut dire. Donc elle est pas dans le sens de cette liaison entre la mer du Nord et la Manche. Donc si faille il y a, elles sont perpendiculaires en fait à cette ouverture. Donc on voit bien qu'il y a pas de relation directe entre les failles et puis l'ouverture dont on parle.
Alors, quand on parle de catastrophe, ça a un sens, on va dire, humain. Est-ce que géologiquement ça a une portée importante?
Oui, alors ça a un sens, et ça a un sens surtout quand on compare la manière dont on voyait la géologie peut-être il y a une centaine d'années et la géologie telle qu'on la voit aujourd'hui. On a souvent eu tendance à, pour des raisons d'uniformitarisme, on se dit, les causes que l'on voit aujourd'hui se dérouler, les actions physiques d'érosion, les explosions des volcans, enfin, toutes tous les phénomènes géologiques que l'on peut observer aujourd'hui, qui sont des phénomènes très lents, on considère qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils aient été plus rapides à d'autres moments. Or, on se rend compte que par moment, il y a des événements qui se font à l'échelle humaine. Les volcans s'en sont un, mais d'autres phénomènes qu'on pensait être sur des temps très longs, on peut se rendre compte que parfois, ils sont extrêmement brutaux. Et c'est pour ça qu'on peut du coup parler de catastrophisme. En tout cas, on peut parler d'événements extrêmement brutaux. Donc il y a de bonnes raisons.
Alors, si on prend l'échelle du temps, la Grande-Bretagne se serait séparée du continent. Est-ce que c'était à un moment où l'homme existait ou pas ?
Oui, là, nous, ce qu'on met en évidence, c'est qu'avant 500 000 ans, il y a une connexion permanente entre la Grande-Bretagne et l'Europe, et qu'après 500 000 ans, il y a par moment des connexions, en fait, quand le niveau marin est haut, mais il y avait déjà des hommes. Eh bien, en effet, il y a 500 000 ans, on a une époque glaciaire, hein, donc c'est une période glaciaire. Il faut imaginer que l'Europe est vraiment très, très différente d'un point de vue de la végétation et de ce qui est à sa surface, mais il y a déjà de l'homme, des hommes. C'est ce qu'on appelait précédemment les pré-néandertaliens, on appelle ça aujourd'hui l'homme d'Heidelberg. C'est un homme qui est c'est pas encore l'Homo sapiens, hein, c'est pas l'Homo sapiens, mais c'est déjà un homme qui orne des grottes, qui est présent dans le nord de la France, qui est présent dans le sud de la France également. Il y a déjà des hommes il y a déjà de l'homme, effectivement, des hommes du genre Homo.
Mais est-ce que ces hommes-là étaient plutôt positifs quant à l'intervention d'un réchauffement de la planète ?
Il faudrait leur demander, je ne sais pas bien. À mon avis, ils devaient avoir froid. Ouais. Heureusement qu'il y avait des animaux genre mammouth laineux, rhinocéros laineux, qu'il fallait déjà les tuer, mais au moins, il y avait s'ils arrivaient à leur faire la peau, ils pouvaient se la mettre sur le dos. Mais donc, je ne sais pas s'ils envisageaient un temps plus chaud. Mais je pense que pour eux, c'était plus facile d'aller vers le sud pour avoir un peu plus chaud que d'attendre le réchauffement climatique.
Alors justement, on peut se poser la question, pourquoi ces personnes ont été amenées à aller dans des territoires relativement même plus qu'hostiles.
Je me pose souvent la question, mais on se dit pourquoi y a-t-il des Esquimaux encore aujourd'hui ? Pourquoi il y a des Inuits dans ces régions qui nous paraissent tellement inhospitalières ? Je n'ai pas de vraie réponse à ça. Je ne sais pas si c'est des raisons. L'homme a besoin d'être à la fois en groupe et isolé, ou peut-être qu'il y a des ressources intéressantes qui les conduisent à aller vers ces zones-là. Là, je plaide non coupable, je ne sais pas.
Il peut y avoir aussi des rejets de la société.
Oui, je ne connais pas la sociologie de ces groupes-là, mais c'est possible.
Quand on voit en ce moment comment la société se fracture un peu, on peut imaginer des cas extrêmes.
Des cas extrêmes, des gens qui seraient envoyés aux confins des calottes glaciaires vers le nord. Je ne sais pas. Alors là, il faudrait relire les romans sur je ne sais plus comment s'appelaient ces romans là, sur les enfants de la Terre, ou je ne sais plus quoi.
Voilà, donc là on est là pour parler science, donc j'allais dire sérieusement. Hein. Et donc pour découvrir cette histoire hein, de cette séparation entre la Grande-Bretagne et le continent européen, on a des matériels d'observation. Donc vous en tant que chercheur dans un laboratoire donc d'océanologie et de géosciences, qu'est-ce que vous avez à votre disposition et est-ce qu'éventuellement vous œuvrez avec d'autres scientifiques qui ont peut-être d'autres matériels que vous mettez en commun sur ces opérations ?
Alors, je risque d'être long à la réponse, mais bon, c'est vrai, on est dans un laboratoire donc océanologie géosciences, donc qui est multisite. Le centre névralgique, il est à Vimereux, hein, donc sur la côte, tout près de Boulogne-sur-Mer, un tout petit peu au nord. Donc l'essentiel des chercheurs travaille sur la zone marine. Donc on a à notre disposition tout un tas d'équipements, qui soient des équipements plutôt destinés aux études géologiques, d'autres écologiques, biologiques. Donc il y a pas mal d'équipements, et puis également on a à notre disposition des moyens un bateau. voilà, donc il y en a un qui est naval. Naval, en effet. Donc il y a le Sepia 2, qui est un petit navire de l'INSU, qui dépend du CNRS, qui est basé à Boulogne-sur-Mer. Parfois, on a besoin de navires de plus grande taille. Mais nous, on apporte nos équipements sur ces bateaux et on va naviguer, alors, soit nos équipements, les équipements dont on dispose dans les laboratoires, soit des équipements nationaux quand on les a pas. Mais en effet, la deuxième partie de votre question, on a des choses que l'on peut apporter. On peut faire de la sismique, faire des choses comme ça, regarder de la bathymétrie, mais on a besoin de collaborer avec d'autres équipes. D'ailleurs, nos travaux n'ont pas été faits uniquement avec des équipements lillois. On a fait appel à des collègues de Gand. Et puis, plus tard, sont arrivés des Belges, des Anglais qui ont travaillé avec nous. Donc, c'est pas uniquement avec nos propres forces qu'on a réussi à travailler sur cette zone-là.
Bon, pour ceux qui hésitent entre naval et navo, je pense qu'on peut accepter les deux. Bon. Allez vérifier un petit peu. Enfin, bon. Je parle à nos auditeurs. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à campus@campusville.com.
Je demanderai à mon voisin de bureau, il est très calé en dictionnaire.
Donc, comment on approche une étude comme ça? D'abord, pourquoi on l'a fait?
Alors, on l'a fait parce que, il y a une question au départ qui est assez géologique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a 500 000 ans, donc les faunes fossiles qu'on trouvait dans le sud de la mer du Nord et dans le nord de la Manche étaient différentes. Ce qui montrait qu'il n'y avait pas de connexion. On avait des moules de manchotte et puis des moules de mer du Nord ou des huîtres. Voilà. En tout cas, ce n'étaient pas les mêmes espèces. Et donc, on se posait la question de la raison pour laquelle il y avait deux groupes différents. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été effectués dans les années 70 pour localiser l'emplacement idéal du tunnel sous la Manche. Donc il y a eu des profils qui ont été faits au travers de la Manche, dans tous les sens, pour vérifier s'il n'y avait pas de problèmes géologiques inciter les constructeurs à choisir une route plutôt qu'une autre. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans le fond de la Manche, non seulement des systèmes d'anciennes vallées qui aujourd'hui sont inondées par la mer, mais il y avait également d'anciennes vallées qui sont recouvertes par du sédiment, remplies par des sédiments, et donc on ne s'attendait pas à trouver ça. Et donc à partir de là, on s'est posé la question de l'origine de ces grandes dépressions aujourd'hui remplies par du sédiment qui se trouvent à un emplacement où on ne les attendait pas, en fait. Donc après, plusieurs hypothèses sont venues à jour et puis il y a eu plusieurs hypothèses proposées et petit à petit, chacun donnant ses arguments, on a fini par proposer les nôtres.
Donc en termes de temps, de repères dans le temps, ce n'est pas facile d'identifier un moment bien précis et même une période, même en millions d'années, je ne sais pas si on peut calculer.
Alors, on sait qu'avant 500 000 ans, il n'y a pas de connexion. Et on sait qu'après 500 000 ans, il y a connexion quand le niveau marin est haut. Alors ça, c'est quelque chose, je vais peut-être parler un petit peu de ça. Il faut savoir que depuis 2 millions d'années, on a des variations, même depuis plus que ça, mais on est dans une ère globalement glaciaire. C'est-à-dire qu'il y a en permanence, sur le pôle Nord et sur le pôle Sud, une calotte glaciaire. Cette calotte glaciaire est plus ou moins grande, selon les saisons, mais également elle est plus ou moins grande sur des échelles un peu plus longues. Et la période principale qui fait passer d'une période où la calotte est très étendue à une calotte moins étendue et qui revient à une grande taille, c'est à peu près 100 000 ans. C'est des raisons astronomiques, en fait. Voilà, tous les 100 000 ans, on est dans une ère glaciaire, ou tous les 100 000 ans, dans une ère interglaciaire. Aujourd'hui, une période interglaciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la calotte glaciaire sur le pôle Nord et sur le pôle Sud est relativement réduite. Enfin, sur le Groenland, plus précisément, et sur le pôle Sud est relativement réduite.
Vous voulez dire qu'on est sur une phase ascendante du réchauffement climatique?
Sans parler des effets liés à l'homme, on est au point le plus haut, normalement, du réchauffement d'origine astronomique. Et on devrait, mais les échelles sont plus tout à fait les échelles humaines, on devrait aller doucement vers un refroidissement.
Bon, ça peut prendre encore un certain temps.
Ça peut prendre un certain temps, plusieurs siècles, on ne sera pas là pour le voir, ça.
Alors, si on revient encore avant, cette grande calotte glaciaire que vous décrivez, est-ce qu'avant, justement, elle n'existait pas? On peut l'imaginer aussi?
Oui, alors là, il faut remonter beaucoup, beaucoup plus loin. Mais en effet, si on parle cette fois-ci en millions d'années, et si on parle du Crétacé, peut-être que les gens connaissent les falaises du Cap Blanc-Nez, où on va chercher des ammonites, des choses comme ça, des fossiles. Là, en effet, à cette période-là, il n'y avait pas de calotte glaciaire, ni sur le pôle Nord, ni sur le pôle Sud. Donc là, c'est des raisons plus d'ordre tectonique, des phénomènes très lent de connexion entre les océans qui font que une calotte glaciaire peut progressivement se mettre en place sur le pôle Sud puis sur le pôle Nord, en fait, sur le Groenland.
Alors là, on va aborder un problème peut-être qui n'est pas de votre compétence, mais est-ce que le fait que les Anglais soient sur ce qu'on peut appeler quand même une île, hein, ça influe sur leur niveau d'indépendance ou leur volonté d'être un peu à l'écart quand même du monde européen d'une manière générale, voire de revenir s'il faut un peu en arrière par rapport à des moments où ils ont peut-être mis un peu le bout du pied?
Je suis certain, il n'y a qu'à discuter avec... si vous allez un jour à Ouessant, vous verrez bien que les gens sont et pourtant ils sont français, mais ils ont un caractère illien, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent comme français, mais comme habitants dans une île. Donc je pense que habiter sur une île, ça forge le caractère d'une certaine manière. Donc c'est, à mon avis, c'est évident que être anglais, se considérer comme anglais, le fait d'être sur une île doit participer à l'idée d'être anglais. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que ça n'a pas été facile pour les Romains d'envahir l'Angleterre, ça a été impossible pour Napoléon, ça a été impossible pour Hitler. Donc je pense que oui, le caractère d'insularité il doit être ressenti très fortement chez ces Anglais. Oui.
Alors, c'est vrai qu'on peut aussi imaginer, suite à cet écartement, un peu comme dans notre corps, que par moments on doit faire des connexions, voire remettre des petits bouts d'un côté ou de l'autre pour que la connexion se refasse. Le tunnel sous la Manche, c'est un peu ça en fait, c'est relier deux parties d'un ensemble qui était cohérent à un certain moment.
Oui, en effet. Alors, je ne sais pas si on se place sur le point de vue politique ou le point de vue de l'homme, mais c'est vrai, oui, mettre le tunnel, ça rajoute de la connexion, et on voit bien que malgré la présence du tunnel, aujourd'hui, il y a plus de trafic transmanche par bateau qu'il y en avait avant le tunnel. C'est-à-dire que ça n'a pas retiré, ça a augmenté les échanges. Alors peut-être que l'Europe aussi a joué là-dedans, mais en tout cas, il y a plus d'échanges qu'il y en avait avant. Donc c'est pas ça qui a coulé les bateaux, si j'ose dire.
Alors, d'un point de vue écologique, est-ce que le bilan carbone du déplacement en bateau par rapport au même transport effectué par la Terre, si l'écart était comblé, serait meilleur ou pas?
Alors là, je ne sais pas bien. Je sais que les bateaux laissent leur moteur allumé quand ils sont OK de part et d'autre, mais alors... je ne sais pas. On peut se poser la question. Mais c'est marrant qu'on parle à la fois de... Là, on parle de déconnexion, d'une certaine manière. Ce n'est pas vraiment un écartement, on dit des fois. Même nous, on utilise, malgré nous, ce terme. Parce qu'il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas de déplacement. C'est fixe, mais il y a la connexion. Mais en fait, la déconnexion de l'Europe et de la Grande-Bretagne, c'est aussi une connexion. C'est une connexion entre la mer du Nord et la Manche. Donc, voilà, c'est si vous êtes une sèche, que vous voulez aller depuis la Manche jusque la Zélande, jusque dans le delta de l'Escaut, pour vous, c'est une ouverture. Mais ça a été une fermeture pour les humains.
Oh, peut-être pour les Vikings, c'était bien qu'il y ait cet espace pour passer. Voilà.
Oui, bon, ils sont arrivés, c'était déjà largement ouvert, donc ça va, ils étaient tranquilles. Oui, c'était sans doute très bien, oui.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire de vos études? Comment on peut se projeter peut-être dans l'avenir? Et qu'est-ce qu'on peut scientifiquement ou économiquement en tirer?
Économiquement, c'est sûr que... Alors, ce n'est pas de nos études, hein, puisque ça avait été fait, ça avait déjà été trouvé dans les années 70, donc ils avaient effectivement vu la présence de ces dépressions, donc le tunnel les évite soigneusement. Économiquement, je vois bien ce qu'il nous reste à faire, nous, pour qu'on comprenne le phasage de cette ouverture. Je vois bien qu'il nous reste des choses à faire. Il faut qu'on aille faire des forages dans ces fosses pour récupérer des échantillons, mais c'est l'économie négative, dans le sens où ça va coûter de l'argent plus que ça rapportera de la connaissance, mais ça coûtera de l'argent quand même. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Alors, M. Transo, vous qui avez vogué dans les mers du monde entier, on peut peut-être dire ça, hein, dans certaines mers en tout cas, très éloignées parfois, est-ce que vous voyez des grandes différences entre ce que vous avez observé vers la Grande-Bretagne et ce que vous auriez éventuellement observé vers la mer de Chine?
Alors moi, j'aime beaucoup faire du bateau. Hein. C'est vrai, je me caractérise des fois comme géologue marin. Hein. Ça veut dire que l'essentiel de mes études se font en mer, même si ce n'est pas exclusif. J'aime beaucoup aller en bateau, mais j'aime surtout quand on est en bateau, voir le bord. Donc en fait, alors que j'ai pas du tout peur, mais c'est je trouve que la mer est c'est un monde merveilleux, mais voir les côtes, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand on est entre Calais et Douvres, qu'on se retourne d'un côté, on voit les falaises de Douvres, qu'on voit les falaises de Calais de l'autre côté, ou quand on est au large de la Belgique, qu'on voit toute la Belgique d'un seul coup d'œil entre Zeebrugge d'un côté et Dunkerque, ou voilà, pour moi, c'est des moments magiques. On voit des belles choses. Alors après, quand on est au milieu de la mer, complètement au milieu de l'océan, ce qui change, c'est la température, c'est peut-être la couleur du ciel, c'est peut-être la couleur de la mer. Mais bon, quand on voit pas le bord, on n'a plus de repères. Le soleil se lève une fois sur bâbord, le lendemain se lève sur tribord parce que le bateau a tourné. C'est un monde un peu particulier de ce point de vue-là.
Comment ça se passe dans une équipe scientifique sur un bateau? Comment ça s'organise la recherche?
Généralement bien, parce que les responsables des missions, ce sont des gens qui ont déjà, la plupart du temps, eux-mêmes participé à des missions, donc ils savent comment ça se passe. Et en fait, c'est organisé par quart. C'est extrêmement minuté. Il y a des quarts de 4 heures, on travaille 4 heures, on se repose 8 heures, on retravaille 4 heures. Et pendant les 8 heures, on ne va pas dormir 16 heures par jour. Donc on peut participer à des tâches, mais on est posté. En fait, c'est un travail posté. On travaille 4 heures de rang et puis après on a 8 heures pour faire autre chose. On travaille jour et nuit parce qu'un bateau ça coûte très cher à entretenir. Voilà, il y a des fois des travaux qui se font sur le pont pour aller prélever des échantillons en mer. Il y a des fois des travaux qui se font dans les labos quand on fait de la sismique, c'est ce qui était notre cas pour ces études-là. Donc on est comme dans un bureau, en fait, mais dans un bureau qui bouge à la fois sur place et puis qui se déplace sur la mer.
Ouais. C'est vrai que c'est quand même plus facile d'un bureau d'aller manger au resto d'à côté que là, il faut préparer tout ça, il y a de la logistique.
Ah, mais il y a des cuisiniers sur les bateaux. Donc en fait, c'est encore plus simple, il suffit de monter un étage ou de descendre un étage, c'est encore plus simple.
Combien de temps vous préparez vos missions à l'avance?
Ah, c'est long, hein, c'est long. Là, on a déposé, il y a très récemment, une demande de mission pour aller naviguer sur les eaux tunisiennes, entre Tunisie et Libye, mais côté tunisien. Donc, il faut déjà préparer, faire de la bibliographie, voir quelle est, avoir une question à laquelle on veut répondre, faire de la bibliographie pour voir exactement ce qui a déjà été fait sur la zone, ce qui n'a pas été fait, quelles sont les questions qui restent à résoudre. Fabriquer un dossier de demande de campagne, l'envoyer, se le faire évaluer, se le faire rejeter si par hasard il n'est pas convaincant. Et puis après, c'est une préparation logistique. Donc voilà, il faut quelques semaines. Bon, il y a tout ce qui est dédouanement éventuellement. Et puis après, c'est la logistique après. Et puis,
ouais. Est-ce que les équipes sont plutôt complètement françaises ou bien mixtes?
Ça dépend beaucoup. Là, sur l'étude dans la zone de la Manche, la première fois, c'était sur un bateau français avec des moyens géophysiques belges. La fois d'après, c'était encore un bateau français, c'était 100% français, avec un bateau qui s'appelle le Côte de la Manche. La fois d'après, et plus récemment, il y a 5 ou 6 ans, c'était avec un bateau belge. Une mission demandée par les Anglais, mais sans Anglais à bord au final, et puis avec des Français et des Belges, quoi, voilà. Et puis des Hollandais également.
Donc les Anglais sont quand même un peu intéressés ou restent un peu réservés?
Ah non, ils sont intéressés. À vrai dire, le papier là, qui a fait qu'on a parlé un petit peu de ce Brexit 1.0 et qui a fait qu'on a commencé à reparler de cette histoire-là, c'est issu de travaux qu'on avait fait en 2002, mais on n'avait pas complètement, ce qui n'est pas bien, hein, on n'a pas complètement perçu la portée de nos travaux et voilà, on avait fait les études, on trouvait que c'était intéressant, on avait expliqué un peu ce qu'on avait trouvé, mais ce sont les Anglais qui ont trouvé d'autres éléments et qui se sont dit ah bah, on a besoin des Lillois, on a besoin des Gantois pour faire une vraie équipe et pour travailler sur ce sujet-là, donc non, on a besoin des Anglais, oui, c'est les Anglais qui sont les premiers auteurs de cet article et puis c'est vraiment, oui, ils sont intéressés autant que nous, en fait. Ils sont autant navrés que nous en ce qui concerne les scientifiques du Brexit politique que nous, mais pour la science, ils sont très contents de travailler avec nous. Oui.
Donc vos recherches, vos travaux, vous les publiez dans quel type de revue?
tout type de revues, des revues la plupart du temps en anglais, dans des revues internationales, mais dans tout type de revues. Là, celui-là, c'est une revue qui est relativement prestigieuse, c'est-à-dire qui a un impact important sur les médias, les choses comme ça, qui s'appelle Nature Communication. Mais ça peut être dans des revues françaises, ça peut être dans des revues de géologie marine, ça peut être des revues, généralement, ça peut être des revues, c'est aussi dans Science et Vie, par exemple. Donc voilà, donc ça peut être de la vulgarisation, mais ça peut être des revues extrêmement enfin, pointues et scientifiques. Oui.
Pour un scientifique comme vous ou votre équipe, hein, c'est incontournable l'anglais.
Oui. Je pense que c'est un message qu'on fait passer à nos étudiants en permanence. En effet, c'est inimaginable de faire de la science sans parler anglais. Oui. C'est impossible. Oui.
Voilà, bien, c'est 36 jours. Merci. Si vous aviez un message, peut-être une bouteille à la mer, ce serait quoi?
Un message, bah écoutez, moi je ne sais pas quel message, je suis juste un peu navré de voir qu'il y a ce Brexit qui sépare quelque part tous les travaux qui avaient été faits de rapprochement entre un bord et l'autre du Détroit et qui nous sépare un peu de nos collègues anglais. Je sais qu'on aura toujours la volonté de travailler avec eux. Il y aura peut-être moins de facilité via des programmes européens avec eux, mais je crois que ce sera encore possible. Il y a bien des programmes avec l'Israël alors qu'ils ne sont pas en Europe. Donc voilà.
J'ai merci mémoire plutôt beaucoup, M. Transo, et bonne continuation pour ces études passionnantes.
Eh bien, merci. Bon après-midi à vous.